Les experts du conseil scientifique l'avaient recommandé, cela n'était plus un secret pour personne. Les mesures de confinement sont donc prolongées pour 2 semaines de plus, cela nous emmène au 15 avril, même si, écoutez bien, Édouard Philippe évoque clairement une durée totale d'au moins 6 semaines.
Au terme de ces 10 premiers jours de confinement, il est clair que nous n'en sommes encore qu'au début de la vague épidémique. C'est pourquoi, avec l'accord du président de la République, j'annonce aujourd'hui le renouvellement de la période de confinement pour 2 semaines supplémentaires à compter de mardi prochain, soit jusqu'au mercredi 15 avril. Les mêmes règles que celles actuellement en vigueur continueront à s'appliquer. Cette période pourra évidemment être prolongée si la situation sanitaire l'exige. Vous savez que le conseil scientifique qui éclaire les décisions du gouvernement évalue à au moins 6 semaines au global la période totale de confinement. Il est encore trop tôt pour le savoir avec certitude. C'est la raison pour laquelle j'annonce cette décision.
Édouard Philippe, il y a quelques minutes, à l'issue d'un conseil des ministres spécial, nous nous installons dans une crise qui va durer. Il va falloir tenir, disait-il dès ce matin. Bonsoir Ève Roger.
Bonsoir Sébastien.
Chef du service société d'Europe 1, c'est une vague extrêmement élevée qui déferle, dit le gouvernement, sur le Grand Est, on le sait, et maintenant sur l'Île-de-France, qui concentre le plus gros des inquiétudes pour les jours à venir.
Eh bien oui, dans cette région, les chiffres sont vertigineux, dit le patron de l'Agence régionale de santé. 1300 lits de réanimation sur les 1500 prévus pour les Covid+ sont déjà occupés et ça ne va pas s'arrêter. D'ici 24 heures, 500 lits supplémentaires vont être ouverts pour accueillir de nouveaux patients, de quoi tenir tout le week-end, mais pour éviter l'engorgement et la saturation en début de semaine prochaine, l'Agence régionale envisage déjà d'envoyer des patients franciliens. Ailleurs, d'abord dans des régions françaises, pas encore sous le feu, ont confirmé cet après-midi les hôpitaux de Paris, et peut-être plus tard à l'étranger. Mais on ne sait pas encore combien de malades, pour quelle destination. Il faut une décision nationale, ont-ils dit, mais il faut vite la prendre, car il faut faire de la place en réanimation pour les futurs patients en détresse respiratoire qui vont arriver tout au long de la semaine prochaine.
Ouais, des transferts de malades qui ont déjà lieu pour désengorger les hôpitaux du Grand Est et qui continuent. Un avion militaire a évacué aujourd'hui 6 patients de Mulhouse vers Bordeaux, et ce week-end, ce sont 48 autres malades qui seront envoyés eux aussi en Nouvelle-Aquitaine. Ève, je reviens sur cet afflux, ce pic. Il risque ensuite d'arriver dans toutes les autres régions, celles qui ne sont pas encore touchées aujourd'hui ?
Alors ce qui est sûr, c'est que ce scénario va être le même partout. Une vague de patients dans les hôpitaux, un pic et puis un lent reflux. Mais toutes les régions ne seront pas touchées aussi violemment que le Grand Est, qui, je le rappelle, est encore en phase ascendante. Le pic n'est pas encore passé. On sent poindre la vague du côté de Marseille, dans les Hauts-de-France. Elle devra arriver un peu plus tard dans l'Ouest, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Mais ce qui est rassurant, et on l'a vu en Chine et en Italie, c'est que le confinement, quand il est respecté, permet d'aplatir considérablement la courbe du nombre de cas. Ça fait donc moins de malades graves et donc moins d'hôpitaux engorgés.
Voilà, d'où le prolongement de ce confinement. Ève Roger, chef du service société d'Europe 1.
On va vous retrouver, Ève Roger, à 18h30 dans les grandes voies, comme chaque soir, avec Emmanuel Duteil pour l'économie et Mickaël Darmon pour la politique. On revient sur ce bilan. Une personne qui meurt, Sébastien, toutes les 4 minutes dans les hôpitaux de France. Ce chiffre a été donné hier soir par le ministre de la Santé. Et puis, il y a cette fin tragique, cette histoire tragique qui nous a tous marqués. La mort d'une lycéenne de 16 ans. Elle s'appelait Julie. Et ce soir, Jeanne Bergaoui, sa commune dans l'Essonne, appelle à lui rendre hommage.
Oui, à 20h, les habitants de Morsan-sur-Orge sont invités à allumer des bougies aux fenêtres et sur les balcons. Un geste de solidarité pour la famille de la jeune fille, la première mineure à mourir du Covid-19. Une mort qui agit comme un électrochoc, comme un rappel à la vigilance. Le virus s'attaque à tout le monde, les plus jeunes ne sont pas à l'abri. La lycéenne de 16 ans ne présentait aucune maladie particulière, aucun facteur de risque. Alors, quand Julie a commencé à tousser la semaine dernière, pas d'inquiétude particulière chez ses parents. Mais les quintes s'intensifient, elle est essoufflée. Lundi, sa mère l'emmène donc consulter un généraliste. Là, dans le cabinet, tout s'accélère. Le médecin diagnostique une détresse respiratoire. Elle est immédiatement conduite à l'hôpital de Longjumeau, à côté de chez elle. Rapidement, dans la nuit, son état s'aggrave. La jeune fille est transférée vers l'hôpital Necker. Elle est admise en réanimation. On lui fait alors 2 tests du Covid-19, tous les 2 négatifs. Mardi soir, son état se dégrade encore. Un autre résultat tombe. Julie est en fait positive, elle est intubée et succombe dans la nuit. Victime, selon Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, d'une forme sévère du virus extrêmement rare.
Le récit de Jeanne Bergaoui pour Europe 1. Les obsèques de Julie auront lieu la semaine prochaine, mais sans cérémonie ou presque. Seulement 10 personnes pourront être présentes. Le docteur Jimmy Mohamed est avec nous comme chaque soir pour répondre à vos questions. Bonsoir docteur.
Bonsoir Sébastien.
Il y a un aspect qui interroge dans cette terrible histoire. On l'a entendu par deux fois, cette adolescente a été testée négative au Covid-19. Ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des failles dans ces tests de dépistage?
Oui, c'est un test qui n'est pas fiable à 100% comme tous les tests, et on estime que ce test pourrait se tromper dans 30% des cas. C'est-à-dire que le test dans 30% pourrait vous dire que vous n'avez pas la maladie, or vous êtes malade. Malheureusement, ça n'a pas un très grand impact, c'est un peu terrible ce que je vous dis, mais puisqu'on n'a pas de traitement spécifique de la maladie, on vous teste pour le coronavirus, on vous fait le prélèvement. S'il est négatif, eh bien, vous rentrez chez vous. S'il est positif, vous rentrez quand même chez vous, mais avec des mesures de précaution, puisque vous êtes contagieux. L'enjeu est peut-être ici. Mais en matière de traitement, on ne va pas vous donner un antibiotique, on ne va pas vous donner un antiviral, on va simplement vous surveiller. Néanmoins, il y a d'autres éléments qui pourraient orienter vers un diagnostic de coronavirus. On sait que le scanner pulmonaire est plus performant que le test lorsqu'il est réalisé, c'est-à-dire que certaines équipes, lorsqu'elles ont un doute, le test est négatif alors qu'ils ont une forte suspicion, ou si le test n'est pas accessible, ils font un scanner qui permet de poser le diagnostic plus facilement. Bref, on sait que ce test n'est pas le meilleur, c'est le seul qu'on ait pour l'instant. On espère que les sérologies, par la suite, vont nous aider un petit peu plus.
Voilà, et on n'est pas sûr donc que cette différence dans le résultat du test aurait changé quoi que ce soit au traitement en tout cas qu'a subi cette adolescente. Merci pour vos précisions, docteur Jimmy Mohamed. Sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez tous les jours à 15h. Et toutes vos questions au quotidien, vous nous les faites parvenir sur le hashtag Radio Ouverte. Et nous continuons de suivre votre morale, votre ressenti de cette crise grâce à l'Institut BVA. 9e vague de notre baromètre aujourd'hui avec des indicateurs de confiance au plus bas, encore une fois. Seuls 4 Français sur 10 donnent du crédit aux informations données par les pouvoirs publics. 59% d'entre vous n'ont pas confiance dans la manière dont le gouvernement gère cette crise.
Et dans ce sondage Europe 1 BVA, 38% cite comme priorité absolue, en quelque sorte, la fourniture de masques, de protection aux soignants. C'est l'Arlésienne, c'est ce qu'on disait hier avec Ève Roger.
Oui, cette pénurie qui continue de poser question. Le gouvernement indique qu'1 million de masques doivent arriver de Chine ce week-end. Et des initiatives locales apparaissent pour organiser la distribution au plus grand nombre possible de soignants, comme à Nice, où la mairie a mis en place depuis ce matin un drive. Les médecins, infirmiers et pharmaciens peuvent venir se fournir sans même descendre de leur voiture. Écoutez, Bastien Nespoulous, l'adjoint au directeur des services de la ville.
Il y a plus de 50 000 masques qui vont être distribués, avec notamment des masques FFP2, des masques chirurgicaux. Et il y a des commandes continues qui sont en cours pour doter progressivement l'ensemble de ces professionnels. De manière très pratique, les véhicules pénètrent dans le palais des expositions de Nice. Les professionnels de santé présentent leur carte professionnelle et leur titre d'identité. On vérifie sur la base d'un listing et ensuite on les dote de ces kits qui comprennent donc des masques et du gel hydroalcoolique par la fenêtre de leur véhicule. Ça permet de garantir une certaine distance entre les équipes et les professionnels de santé qui sont dotés. Je crois qu'entre le moment où son identité est vérifiée et le départ du professionnel de santé, il doit se passer à peine 30 secondes.
Voilà, et la pénurie d'équipements de protection pour les soignants est une menace immédiate, dit ce soir l'Organisation mondiale de la santé. Propos recueillis par Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 sur la Côte d'Azur.
Europe 1. Et votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Pas de marché dans beaucoup de villes de France ce week-end. Ils sont désormais interdits, sauf sur dérogation. Et vous allez voir que certaines villes en ont déjà obtenu. C'est à suivre dans votre édition de 18h.
Et puis le virus au plus haut niveau du pouvoir en Grande-Bretagne. Boris Johnson testé positif, tout comme son ministre de la Santé.
2 heures d'infos pour écouter le monde changer. C'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1.
Et maintenant, voici la Minute Maison avec les experts Leroy Merlin.
Et bien, surtout ce soir, je suis en compagnie de Brigitte Joubert, qui est experte en développement durable chez Leroy Merlin. Brigitte, j'aimerais savoir si les Français trient réellement leurs piles et leurs batteries.
D'après les études, 77% des Français savent que l'on doit trier les piles et batteries. Toutes les piles et batteries ne sont pas suffisamment bien triées encore, mais le pas est intéressant.
Alors, quel est le bon geste à avoir?
C'est de rapporter systématiquement ces piles et batteries dès qu'elles sont stockées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un foyer moyen possède 106 batteries et piles. piles et qu'il y en a 13 qui sont prêtes à y recycler mais qui dorment dans les tiroirs. Donc aussitôt que vous avez des batteries que ne vous utilisez pas, vous les ramenez dans un magasin, dans une école, un lieu de recyclage.
Et alors quel est votre avis par rapport aux batteries dites rechargeables ?
C'est un geste que tout le monde devrait adopter, c'est à la fois écologique et économique. Au lieu d'acheter et de jeter, ça vous permet d'utiliser des piles une centaine de fois, voire plus.
Voilà, et ainsi on amortit le chargeur très rapidement. Merci Brigitte Joubert, à très bientôt avec Laurent Merlin.
Et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau conseil pratique avec Laurent Merlin.
Il est 18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et confinement oblige plus de marcher ce week-end pour beaucoup d'entre nous. C'était déjà le cas mercredi d'ailleurs, juste sous mes fenêtres pour tout vous dire. Et il était devenu difficile d'ailleurs d'y faire respecter les mesures de distanciation. Le gouvernement les a donc interdits.
Oui, sauf sur dérogation, sur demande des maires et uniquement à certaines conditions. Il faut de l'espace et ce sera le cas à Grenoble ce week-end. Jean-Luc Bougeon, le maire, a obtenu des dérogations.
Oui, après un travail en collaboration avec le préfet, tous les marchés grenoblois, 35 au total, vont rouvrir, mais dans une version ultra light, hein, c'est-à-dire seulement 5 étals par marché, là où avant il y en avait 20, 30 ou 40. Alors sur chaque marché, on retrouvera l'essentiel, les fruits, les légumes, la viande, le poisson, le fromage. Et bien sûr, les clients devront respecter des mesures de sécurité renforcées, explique Lucille Lheureux, adjointe au marché à la ville de Grenoble.
Les clients sont tous maintenus à une distance d'au minimum d'un mètre des étals, donc il y a un système de barriérage qui empêche les clients de s'approcher des étals. Et ensuite, les clients ne se servent pas. Et désormais, c'est le commerçant qui vous sert. Donc le client n'a que son cabas et c'est le commerçant qui prend les légumes, qui les pèse, qui les met dans le contenant du client. Donc il n'y a pas de contact entre les clients et les produits.
Alors pour faire respecter ces mesures, un responsable sécurité sera présent du début à la fin des marchés et il y aura une rotation des producteurs. Ça va tourner de façon à ce que chacun puisse récupérer un minimum de revenus. D'où la satisfaction de Damien Mullier, il est producteur de fromage bio à Herbey près de Grenoble.
C'est vraiment important régulièrement de vendre nos produits, même si c'est pas dans les mêmes conditions qu'avant. On est déjà très content de pouvoir faire ces marchés deux fois par semaine à Grenoble. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est vraiment d'écouler ce lait, quoi. Le lait pour chez nous, la viande pour d'autres, les poissons pour d'autres, etc. C'est pas tant le chiffre d'affaires que je recherche que d'écouler les produits pour être sûr de pas faire du surstock avant l'été. Si c'est déjà ça, c'est déjà très bien.
Voilà, garantir des revenus aux producteurs locaux, notamment par rapport à la grande distribution qui a assez peu de contraintes, eh bien c'est un des objectifs du maire de Grenoble, en plus d'offrir des points de contact alimentaires, surtout pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer trop loin de chez elles.
Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 en région Rhône-Alpes et puis en région parisienne. Cette fois, sachez que les producteurs de fruits et légumes s'organisent. Faute de marché, justement, bien les grossistes de Rungis vont proposer à partir de la semaine prochaine leurs produits frais en vente directe via Internet. Les habitants de Paris et de la Petite Couronne pourront se faire livrer. De nouvelles informations ce soir sur le front de l'économie. D'abord, un nouveau geste pour les commerçants. Le gouvernement va leur accorder un sursis. Pas d'expulsion de locaux commerciaux en cas d'impayé de loyer. Et puis un projet de loi est en préparation pour interdire aux entreprises qui vont recevoir des aides de l'État de verser des dividendes à leurs actionnaires. C'est ce qu'a assuré l'exécutif tout à l'heure aux partenaires sociaux qui ont été réunis en visioconférence par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. On y revient dans le journal de 19h. À l'échelle mondiale, nouveau signe alarmant aujourd'hui. Il est clair que l'économie est entrée en récession, estime le FMI qui alerte sur les besoins notamment des pays émergents. Les bourses et notamment Wall Street aujourd'hui décrochent très fortement.
Et le virus qui fait son chemin en Grande-Bretagne, on est donc outre-Manche jusqu'au plus haut sommet du pouvoir désormais. Après l'héritier de la couronne, le prince Charles, c'est le Premier ministre lui-même, Boris Johnson, et son ministre de la Santé qui sont tous les deux contaminés, Gwendoline Bonneau.
Et c'est Boris Johnson lui-même qui l'a annoncé en postant cette vidéo sur Twitter.
Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus.
J'ai développé de légers symptômes du coronavirus, dit-il, l'air plutôt en forme, de la fièvre, une toux persistante et le test s'est révélé positif. Boris Johnson explique qu'il est confiné mais qu'il continuera à travailler. Le Premier ministre n'est pas le seul au sein du gouvernement britannique à avoir contracté la maladie puisque son ministre de la Santé a également été testé positif. Il faut dire qu'encore récemment, Boris Johnson n'était pas franchement un adepte des gestes barrières. Début mars, alors qu'il visitait un hôpital, le Premier ministre se vantait de continuer à serrer des mains, même celles des patients atteints par le Covid-19. Se pose donc la question de savoir combien de personnes Boris Johnson a pu contaminer. Buckingham Palace a fait savoir que sa dernière rencontre avec la reine remontait au 11 mars dernier. Selon le palais, Elisabeth II est en bonne santé, toujours dans son château de Windsor, à 40 km de Londres, alors que son fils, le prince Charles, souffre lui aussi du Covid-19.
Gwendoline Debono pour Europe 1. Et puis en Italie, terrible bilan encore aujourd'hui, le pire jamais connu, près de 1000 morts en 24 heures. L'Italie qui passe désormais la barre des 9000 morts. Grosse inquiétude aussi aux États-Unis avec une progression exponentielle du nombre de cas. On y sera avec Xavier Yvon dans le journal de 19h.